Bonjour à toutes et à tous. Tournez avec moi dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10. Nous allons lire à partir de verset 35 jusqu'à 45. Lisons la parole de Dieu. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela était et cela est réservé. » Les dix, verset 41, les dix ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce passage et nous enseigne les vérités de Dieu. Ce passage commence avec une question difficile à répondre. Parfois, les gens nous jettent une question pareille. Les enfants nous piègent avec une telle question. « Si je te demande quelque chose, peux-tu me le donner ?» Je pense que ça nous arrivait à nous tous. Parfois, les enfants, ils nous approchent, ils nous disent doucement, « Si je te demande quelque chose, peux-tu me le donner ?» Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui ont été des proches de Jésus, lui firent cette demande. « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Mais avant d'aller plus loin, ce serait notre avantage de nous arrêter ici, car il nous semble qu'il y a une contradiction. Quand nous lisons le même récit raconté par Matthieu, regardons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 20. Matthieu 20, 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Voyez-vous le problème ? L'évangéliste Matthieu nous raconte que la mère des fils de Zébédée fait cette demande. Or, l'évangile de Marc nous dit que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, eux-mêmes font cette demande. Cette différence entre les deux récits de la Bible peut nous perturber quelquefois. Mais nous croyons que la parole de Dieu est vraie et qu'elle ne peut pas contenir d'erreurs. C'est nous qui manquons de compréhension. Alors, qui fait cette demande? Le fils ou leur mère? La réponse peut être simple. Comme il est souvent dit, les récits d'Évangile ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires. Il se peut que lorsque Jacques et Jean entendent la réponse de Jésus, déçus et dans l'incapacité de comprendre la parole de Jésus, retournent voir leur mère, Salomé. Salomé, c'est une tante de Jésus. Et elle agit un peu comme Marie aux noces de Cana. Elle vient avec la même pétition vers Jésus, avec l'espoir que ce sera accordé. Une autre possibilité est que les deux auteurs, Matthieu et Marc, sont en train de nous raconter le même incident, mais que chacun nous raconte d'une manière à mieux comprendre l'histoire. Les versets de la parole de Dieu ne sont jamais contradictoires, mais toujours complémentaires. Et regardez le premier verset, Marc 10, 35. « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » C'est assez étrange comme pétition, n'est-ce pas? La question même est compliquée sans parler du contenu de leur demande. On est frappé par leur ignorance. Dans une manière, il oblige Jésus à leur accorder préalablement ce qu'il voulait. Les hommes n'ont jamais compris Dieu. Ils ne savaient pas qu'il était en train de demander au Fils de Dieu, à Dieu lui-même. La volonté de Dieu est que dans les cieux et sur la terre, sa volonté soit faite. Jésus a appris à ses disciples comment prier au début de son ministère. Vous rappelez, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous ne cherchons pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre Dieu en otage. Mais pourtant, c'est ce qu'on essaie de faire parfois avec Dieu. En marchant dans la désobéissance, nous nous mettons dans des difficultés, nous invoquons le nom de Dieu afin qu'il puisse venir nous aider. Mais attention, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas demander quelque chose qui ne peut glorifier Dieu et même quelque chose qui ne peut ternir le nom de Dieu. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Remarquez ici qu'il adresse à Jésus, Maître. Ce qui est vrai, il n'y a pas de problème. Un serviteur doit faire la volonté de son maître et pas sa propre volonté, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous pouvons nous adresser à Dieu comme Abba Père. Nous appelons Dieu comme Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, et en même temps demander des choses en désaccord avec sa volonté. Dans nos prières, on peut adresser Dieu avec beaucoup de noms. On dit qu'on glorifie Dieu, on magnifie son saint nom, mais en même temps, nos requêtes sont, est-ce qu'elles sont en accord avec la volonté de Dieu? Regardez le verset 36. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Jésus répond, et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Remarquons ici comment Jésus répond à leur pétition avec patience. Jésus savait ce que les disciples voulaient lui demander. Celui qui sonde les profondeurs du cœur humain n'a point besoin des paroles que des paroles soient prononcées. Dieu voit les cœurs des hommes. Bien souvent, nous trouvons dans la Bible que quand Dieu pose une question à quelqu'un, ce n'est pas dans le but de connaître ou comprendre, mais pour que la personne comprenne son cœur. Par exemple, quand Dieu il appelle Adam, il pose une question, « Adam, où es-tu ?» Ou « Où es-tu, Élie ?» Et encore dans le Nouveau Testament, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?» Le Fils de Dieu, le roi de l'univers, qui est descendu sur cette terre, se penche au niveau des hommes pour poser cette question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Merveilleux mystère de Dieu. Et à la suite, verset 37, et ils disent, « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » La mère voulait une place d'honneur pour ses deux fils. Je pense que beaucoup de parents, ils voudraient que les enfants ils deviennent des piliers de l'Église, des hommes et des femmes dans le ministère de Dieu. Et cette mère, Salomé, elle voulait une place d'honneur pour ses deux fils. Jacques et Jean eux-mêmes réclamaient une place d'honneur pour eux-mêmes. En tout cas, ces trois personnes, les disciples de Jésus, demandent une telle chose juste après que Jésus les ait avertis à trois reprises. Il avertit de sa mort et sa souffrance. Regardons ensemble. Marc chapitre 8, le verset 31 à 33. Marc 8, verset 31 à 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensée humaine. » Et pourtant, Jésus, il a expliqué qu'il fallait qu'il meure. Il est en train de parler des choses qui sont douloureuses, qui pèsent sur lui. Car quand cet incident il passe, c'était sur le chemin, Jésus il part avec ses disciples en Jérusalem pour mourir, pour être crucifié. Et encore à Marc 9, 30 à 32, la deuxième fois, il parle de sa passion, sa mort et ses souffrances. Marc 9, 30 à 32, il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le suive, car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Ils feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. Et encore, juste deux versets ou trois versets avant de notre passage, Marc 10, 32, l'Évangile de Marc, 10, 32 à 34. Il était en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qu'il devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Si Jésus il parle en détail ce qui va arriver, qu'il va mourir, et ce que les hommes ils vont faire à lui. La souffrance de Christ ne peut pas être limitée à la croix du calvaire seulement. Souvent, nous limitons la souffrance de Christ à la croix du calvaire, ce qui s'est passé à Golgotha. Cela n'est pas commencé à Gethsemane. Elle commençait quand Jésus, Dieu lui-même, est descendu sur cette terre pour vivre parmi les hommes pécheurs. Il n'a jamais été compris. Il a été abandonné physiquement à Golgotha, mais il était toujours seul, même entouré par des foules. Il était entouré tout le temps par des foules, mais pourtant il était toujours seul, jamais compris par les hommes. Quand Jésus leur parlait de la croix, il pense au trône. Jésus est en train de parler, expliquer de la souffrance de la croix à ses disciples, mais regardez ce qu'ils sont en train de penser. Ils sont en train de penser au trône. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ses disciples voulaient la meilleure place dans le royaume de Dieu. Être meilleur que les autres. Le meilleur que l'on peut espérer est d'être avec Christ, n'est-ce pas? Il n'aura pas une place meilleure que celle-là. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Je lis de Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil n'a plus sa place dans le royaume de Dieu. Avant la vacance, nous avons médité longuement sur le serment sur la montagne où Jésus il explique les choses de son royaume, comment sera le royaume de Dieu. L'orgueil n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Lucifer a perdu sa place à cause de son orgueil. L'orgueil n'a point de place dans l'église de Dieu non plus. Car l'église, c'est le royaume de Dieu. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Si il y a des querelles dans l'église, parmi les enfants de Dieu, on devrait connaître la cause. La cause, c'est l'orgueil. Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans l'Église de Christ, cherchons-nous la meilleure place? Considérons les autres comme meilleurs que nous-mêmes ou considérons nous-mêmes comme meilleurs que les autres? Être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, ne savait-il pas que pour être glorifié, Jésus-Christ a dû passer par l'ignominie de la croix? Il y avait aussi deux places à ses côtés quand il était pendu sur la croix. Il n'y avait aucun de ses disciples là. Le verset 38, Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Jésus réprimande leur ignorance avec douceur. « Vous ne savez ce que vous demandez. » Il y a beaucoup de chrétiens comme cette femme et ses deux fils. Les disciples de Christ, Ils voient une partie, ils connaissent une seule partie des choses de Dieu. Ils ont juste assez de foi pour suivre Jésus-Christ. Ils ont juste la connaissance pour haïr le péché et pour sortir du monde, et toujours ignorants par rapport à beaucoup de vérités chrétiennes. Ils parlent avec ignorance, ils agissent avec ignorance et commettent beaucoup de choses par l'ignorance. Ils connaissent très peu la parole de Dieu. Et enfin, ils connaissent très peu leur propre cœur et pensée. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas habitués à la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, et nous ne pouvons pas connaître nous-mêmes non plus, nos pensées et nos cœurs non plus, car la parole de Dieu qui nous montre ce que nous sommes, notre état actuel, notre état pécheureuse. Mais nous devrions apprendre par ces versets que nous ne devrions pas traiter de telles personnes avec mépris et apprendre à les accepter avec beaucoup de grâce comme Jésus les a acceptés. Par les choses qu'ils ont demandées, et ça aurait pu provoquer une fou rire. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces disciples? Mais Jésus, il n'a pas méprisé ses deux disciples, ni leur mère. Et il a traité avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de grâce. Et il a accepté. Même si nous voyons beaucoup d'imperfections dans leur vie extérieure, la vraie foi peut se trouver aux profondeurs de leur cœur. Nous ne devrions pas méfier les gens, mépriser les gens quand nous voyons qu'ils ne parlent pas avec sagesse. Nous devrions nous voir dans le miroir pour comprendre que nous étions aussi comme eux. Rappelons-nous que les fils de Zébédée, avec leur imperfection, sont devenus des piliers de l'Église de Christ. Et leur requête était honorée. Jacques était le premier martyr de l'Église, la première Église, l'Église primitive. Et l'apôtre Jean, il a vécu beaucoup plus longtemps. Et quelqu'un qui a dit, Jacques, il a eu un mort de martyr. Et l'apôtre Jean, il a eu une vie de martyr. Donc, on ne peut pas juger les gens en entendant ce qu'ils disent. Vous ne savez ce que vous demandez. Les fils de Zébédée ont demandé leur part dans la gloire du maître, mais ils ont oublié les souffrances de leur maître. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4:13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais si nous ne participons pas dans la souffrance de Christ, nous ne pouvons pas partager sa gloire non plus. Et on ne peut pas, en faisant beaucoup de bêtises, on ne peut pas dire que je souffre à cause de Christ. Et beaucoup de nos souffrances sont causées par nos propres erreurs. Mais il faut connaître ce qui est de souffrir pour Christ. Souffrir à cause de son nom. Ils ont oublié qu'ils veulent être avec Christ dans la gloire. Ils doivent voir la coupe et être baptisés comme lui. Ceux qui ne portent pas la croix ici-bas sur la terre ne porteront pas non plus la couronne. Si on n'est pas prêt à porter la croix ici-bas sur cette terre, on ne peut pas espérer d'être couronné par lui. Et nous ne devrions pas demander des choses à Dieu avec légèreté. sans avoir considéré les conséquences. Nous demandons à Dieu, nos demandes à Dieu devraient être bien réfléchies. Combien de fois nous demandons des choses de Dieu sans vraiment comprendre ce que nous demandons et sans avoir considéré le prix à payer dans nos vies. Ça suffit qu'on réfléchit un moment, quand on prie, on demande beaucoup de choses à Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous demandons? Nous demandons à Dieu de nous sauver et de nous prendre avec lui au ciel. Bien, sommes-nous prêts à prendre sa croix pour lui suivre? Et celui qui ne suit pas Jésus-Christ sur cette terre, il ne peut pas le suivre au ciel non plus. Sommes-nous prêts à quitter le monde à cause de son nom? Sommes-nous prêts à débarrasser le vieil homme et à mettre l'homme nouveau pour combattre, pour travailler et pour courir, pour l'achever? Sommes-nous prêts à résister à un monde moqueur et souffrir pour Christ? Que dirons-nous? Et le Seigneur nous dira, vous ne savez ce que vous demandez. Parfois, nous demandons des choses à Dieu. On demande la sanctification. Nous demandons que Dieu nous sanctifie. Une bonne chose. Sommes-nous prêts pour être sanctifiés par Dieu, par n'importe quel moyen? Dieu peut déployer sur nous par sa sagesse. Quand on demande, nous devrions chercher la sanctification. Chaque chrétien, c'est la volonté de Dieu. Et nous devrions prier pour notre sanctification. Et quand nous demandons la sanctification, nous donnons la liberté à Dieu de nous sanctifier. Et c'est lui qui décide les moyens et comment il va nous sanctifier. La sanctification, ce n'est pas une route... Une belle route. C'est par le chemin étroit que nous pourrons être sanctifiés. Pour être purifiés par des afflictions, pour nous sanctifier, pour nous purifier, c'est par les afflictions que nous sommes purifiés. D'être séparés du monde par des séparations. On peut demander à Dieu que nous devrions être séparés du monde. Et parfois, Dieu il permet les séparations physiques, que c'est dur à supporter. C'est des questions dures. Si nous n'avons pas réfléchi avant de lui demander, il nous dira, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. En Ecclésiaste 5:2, nous lisons, je vais lire pour vous, Salomon, le sage, dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Donc, parfois, je pense que nous devrions savoir se taire. Et on ne peut pas dire la vaine parole. On ne peut pas vivre une fausse religion. On ne fait pas le semblant. Et le verset 41 marque Marc 10, verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Parfois, quand on voit des caractères comme ça dans la Bible, et nous sommes inclinés à se moquer, on pense qu'il était faible, il était ignorant. Ça, c'était le cas des 10 autres disciples. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils se mirent en colère. En lisant ce passage, nous ne devrions pas conclure que seulement Jacques et Jean avaient ce problème. Nous oublions les dix autres. En effet, ils représentent les douze et bien sûr nous aussi. S'ils se mirent en colère, parce qu'eux espéraient la même place comme Jean et Jacques, ils voulaient une meilleure place comme Jean et Jacques. Et c'est pourquoi les dix autres se mirent en colère. L'indignation des dix autres a trahi l'esprit de leur cœur. Quand les dix autres se mirent en colère, ils sont indignés, ça trahit l'état de leur cœur. Et verset 42, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent, et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, vous, qu'il soit votre serviteur. » Et Jésus, il reprend, il dit que, dans le monde, c'est ainsi. Il y a une compétition dans le monde, une rivalité pour être le meilleur. Et même un chrétien, il est attiré par cette course folle pour faire le semblant pour être le meilleur, pour prétendre la meilleure position, pour prétendre la meilleure place. Mais Jésus, il dit ici, vous savez que ceux qu'on regarde comme le chef des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Ici, Jésus, il est en train de construire son royaume avec ses disciples, avec l'Église. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu auparavant. Quand Jésus il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et donc, il n'y a pas de place pour être meilleur dans l'église de Christ, dans le corps de Christ. On ne peut pas prendre la meilleure place. Chaque place est la meilleure place. Quand Dieu il nous place dans un endroit, dans un ministère, ça c'est le meilleur pour nous. On ne peut pas espérer une meilleure place, mais la meilleure place, ça peut être le pied de Jésus. Ni à sa droite, ni à sa gauche. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Mais est-ce que nous sommes prêts à être l'esclave de tous? Nous comprenons très bien c'est quoi d'être un esclave. Sans droit. Il n'a aucun droit. Mais si on appelle Jésus notre maître, et nous sommes son esclave, et nous serons nous aussi l'esclave de tous. Être serviteur, quiconque veut le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et Jésus demande le service. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est le verset clé de l'évangile de Marc. Le verset clé de l'évangile de Marc, c'est celle-là. C'est 10:45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et Jésus lui-même, c'est notre exemple. Si nous pensons que c'est difficile à faire? Non. Et juste avant de ce chapitre, Jésus il a démontré de quoi d'être un esclave. Quand il s'est mis pour laver les pieds des disciples, il a pris la forme d'un esclave pour laver les pieds de ses disciples. Il a montré comment servir dans le royaume de Dieu. Que chacun devient un serviteur. Mais on peut prendre une certaine plaisir quand quelqu'un il vous appelle un serviteur de Dieu. Mais est-ce que vous êtes un vrai serviteur de Dieu pour son peuple, dans son église, dans ce monde? Et si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés pour servir. Ce n'est pas pour être un disciple, pour ne pas être un enfant de Dieu, mais pour une fonction. Notre fonction, c'est servir notre maître dans son corps. Dans son corps. Donc, c'est le moment où nous devrions réfléchir à notre part dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous cherchons une meilleure place? Est-ce que nous cherchons une meilleure place vue par des hommes? Ou notre meilleure place, c'est de servir notre maître fidèlement où il nous place? Que Dieu nous aide à sonder nos cœurs pour comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans son corps, dans son église et dans le royaume de Dieu. Et si nous ne participons pas dans la souffrance de Christ, dans le monde, nous ne pouvons pas partager sa gloire non plus dans le ciel. Prions. Amen.